Vivre en commun, l'émission de radio.
Alors Marie, tu vas nous faire une chronique autour des plantes et aujourd'hui tu vas nous parler de l'achillée millefeuille.
Oui, le millefeuille, comme disait Hildegard de Bingen. C'est un petit peu sa période, parce que c'est une plante de l'été, une plante aromatique et une plante de la Saint-Jean, donc. Voilà. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu en introduction de l'usage des plantes qui remontent loin dans la préhistoire. Le premier code médical régulant l'utilisation des simples, dans le sens de global, date à peu près d'environ 4000 ans. On retrouve des traces de cet usage millénaire dans le livre de la sagesse, la Bible, le Dioscoride, la médecine grecque, la médecine arabe, ayurvédique, traditionnelle chinoise, amérindienne et tous les tradis praticiens. Donc chamans, guérisseurs, druides, sorciers, sorcières. Oups, je l'ai dit. De nos jours, on ne fait plus la chasse aux sorcières. Les inquisiteurs de toutes sortes ont d'autres chats de tout poil à fouetter. Voilà. En parlant de poils, les chimpanzés savent se soigner avec des plantes. Hors leur régime habituel, ils connaissent l'endroit, le biotope où vit la plante dont ils ont besoin. Voilà, peut-être que aujourd'hui, il y a Solène avec nous, donc elle va nous parler de ces mélanges de plantes. Elle aussi est productrice de plantes et elle aussi
connaît les plantes.
Connaît les plantes
et les utilise.
Et voilà, et les utilise. Je te passe le.
Donc moi j'utilise l'achillée millefeuille en infusion et je propose un mélange avec de l'achillée millefeuille, de la mélisse, des pétales de rose et du basilic sacré indien. Voilà, c'est une tisane assez relaxante mais en même temps qui quand même redonne de l'énergie avec le basilic sacré indien et l'achillée millefeuille. Parce que pour moi l'achillée millefeuille c'est une plante qui représente la vitalité et qui redonne des forces. Et après, il y a la mélisse et les pétales de rose qui sont très relaxantes, qui calment le système nerveux.
Voilà. Alors, dans tes mélanges de plantes, tu proposes que des mélanges de plantes, en fait, pas des plantes dans ce que tu vends, pas des plantes toutes seules?
Non, après, à la demande, si quelqu'un me demande, je peux faire un sachet avec que de l'achillée millefeuille.
Alors, comment tu l'as appelé celle-là? Tu leur donnes des noms qui sont assez engageants et puis assez parlants aussi?
Oui. Alors, celle-ci, celle avec c'est l'achillée. Légèreté et simplicité.
Tout un programme. Oui.
T'avais une question, Christophe?
Oui. L'achillée millefeuille, ses propriétés. Donc, l'achillée millefeuille, j'imagine qu'elles sont multiples, mais.
Je pense que Marie a bien préparé les propriétés.
Oui. Alors. C'est une. Elle est ni froide, ni sèche, ni humide. Elle est normalisante, en fait. C'est une grande circulatoire. Tonique digestive, antispasmodique, anti-inflammatoire et donc fluidifiante du sang. Elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes et les gens qui prennent des anticoagulants. Voilà. En soins externes, elle est hémostatique, cicatrisante, elle désinflamme les plaies. On l'appelle aussi herbe à la couture, herbe au charpentier.
Donc on peut mâcher les feuilles. Quand on s'est coupé, on fait une petite coupure. Et puis on applique les feuilles mâchées, hein, c'est-à-dire un cataplasme, directement sur la plaie.
Mmh. Ouais. Du coup, en combinaison avec la salive, ça doit réactiver les propriétés de la plante.
Oui, c'est ça. Oui, elle est donc hémostatique, elle arrête le sang.
Qui arrête le sang.
Voilà. Et elle s'inscrit à travers les âges comme une plante médicinale majeure. Donc la légende dit qu'elle aurait permis au centaure Chiron de guérir la plaie au talon d'Achille, d'où son nom. Voilà. Héros de l'Iliade, œuvre écrite par Homère. Donc elle est utilisée depuis la plus haute antiquité. Le grec Dioscoride, qui a vécu au 1er siècle, a été le premier à mentionner ses propriétés hémostatiques. Donc c'est une grande circulatoire qui régule tout saignement, interne ou externe. Voilà. L'achillée tient aussi une place importante dans la vie des femmes. Et la savante Hildegard de Bingen a reconnu ses bienfaits au 11e siècle. Voilà, Hildegard de Bingen, vous la situez, le pendant de Léonard de Vinci, abbesse, compositrice, écrivaine, allemande, seule femme reconnue docteur de l'Église par le pape Benoît, qui l'a aussi canonisée. En 2000, quelque chose.
C'est pas rien.
Oui, donc c'était vers le Moyen-Âge.
Oui, elle a vécu au XIIIe siècle.
Ah oui, XIe siècle. Oui. Donc c'est... Mais elle a été canonisée là, il n'y a pas longtemps, là, dans les années 2000, par le pape Benoît.
Et elle avait une approche assez subtile de la médecine à l'ancienne, avec ces données qui rejoint un peu la médecine chinoise, avec les notions d'acidité.
Oui, et même d'ayurvédique, un peu ayurvédique aussi.
Ouais. Voilà. Avec le froid, le chaud, l'acide, ouais. Le sucré, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Complètement, hein, parce que je dis ça...
Non, mais c'est vrai. C'est ça, effectivement.
Et donc, aussi... Ouais. Pardon, et pas que les plantes, les animaux, les pierres aussi.
Elle oui, elle donnait une grande place à l'alimentation aussi. Et oui, elle utilisait les pierres.
Oui, la lithothérapie. Et donc, c'est une femme de science qui a écrit sur la circulation du sang et le système nerveux. Donc, en parlant de l'Aquilée, elle dit que le millefeuille est fébrifuge efficace, qui a des vertus subtiles et variées pour soigner les blessures. Effectivement, quand on fait un peu la composition chimique de l'Aquilée, elle a vraiment des vertus, enfin des propriétés très spéciales. Mmh. Des compositions assez importantes avec...
Mmh. Elle est antibactérienne.
Oui, elle est antibactérienne aussi, oui.
Et on en parlait tout à l'heure, en préambule là, de l'émission. Qu'est-ce qu'on utilise dans la quémillefeuille ? Parce que donc, on a ces fameuses feuilles, je crois,
multi-feuilles. C'est plein de petits folioles.
Voilà.
D'accord.
C'est pour ça qu'on l'appelle la quémillefeuille.
Ok. Mmh. Et donc, j'ai cru voir aussi des fleurs.
Oui.
Blanches, crème.
Voilà. Oui, blanc crème, oui.
Et donc, on utilise tout ? On n'utilise que les feuilles, que les fleurs ? Qu'est-ce que...
Moi, j'utilise surtout les fleurs, mais on peut cueillir les fleurs et les feuilles.
D'accord.
Voilà. Alors, mais justement, une autre femme médecin un petit peu hors de son temps quand même, Maria Treben, qui était herboriste et qui a œuvré en fait pour les médecines naturelles. Dit qu'il faudrait cueillir l'Aquilée en plein soleil et qu'on cueille d'abord, quand elle est très aromatique, les fleurs et ensuite les feuilles. Voilà, parce que les feuilles sont aussi amères, et un peu plus amères que les
fleurs. Ça donne plus d'amertume à l'infusion.
Voilà. Donc, les médecins allemands pionniers de la médecine d'Hildegarde recommandaient d'en prendre une pointe de couteau dans un demi-verre d'eau. 3 fois par jour avant une intervention chirurgicale pour éviter les hémorragies.
Ouais, côté hémostatique. Ouais.
Voilà. Et voilà, plus près de nous, l'Autrichienne Maria Treben, qui a écrit cet ouvrage, La pharmacie du bon Dieu, la préconise pour les affections gynécologiques, en bain de siège, pour désinflammer. Elle a aussi, elle conseille aussi la teinture d'Aquilée pour les problèmes de moelle épinière. Elle est aussi indiquée pour la sclérose en plaques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de propriétés qui sont intéressantes pour plusieurs pathologies, mais surtout pour les congestions, donc puisqu'elle est anti-inflammatoire et anti-spasmodique. Voilà, tout cela toujours. Bon, les plantes médicinales sont intéressantes en tant qu'adjuvant des traitements allopathiques, mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications. Donc, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que les gens qui prennent des anticoagulants ne peuvent pas l'utiliser comme ça, alors, facilement.
Également sur les quantités, je suppose.
Oui.
Peut-être pas non plus en consommer du matin au soir.
Oui, non.
Suivant les plantes, hein, évidemment.
Oui. Après, l'Aquilée, elle est pas, il n'y a pas de toxicité dans la plante. Donc je pense qu'on pourrait quand même la consommer de manière régulière, sans danger.
Okay. Et toujours, est-ce que l'utilisation en frais, c'est possible ?
Ah oui,
puisque toi tu fais des tisanes, le cataplasme,
absolument, mais
c'est en frais aussi, je suppose.
Voilà, en fait, on peut utiliser même le reste de la tisane, c'est-à-dire le macérat, en fait, et puis faire une espèce d'emplâtre si on a mal quelque part, puisque elle est toujours assez efficace. Et en fait, elle est plus efficace sèche que fraîche, puisqu'il y a l'eau en fait qu'on retire.
D'accord.
Quand elle est sèche, donc elle est plus concentrée.
Okay. Le séchage concentre Mais après, on peut très bien utiliser la quille fraîche si c'est, on en a dans son jardin ou autour de chez soi, que c'est la bonne période, voilà. Et faire des tisanes avec.
Et ça concerne exclusivement la quille millefeuille ou les autres aquilées aussi ont des propriétés semblables?
C'est la millefeuille qui est officinale quand même. C'est plutôt. Il y a d'autres variétés. Il y en a une qui est sternutatoire. Celle-là,
elle éternue
les gens qui n'arrivent pas à éternuer. Voilà, donc elle est plus petite et puis elle n'a pas le même biotope.
D'ailleurs. Je vois Benjamin qui prend note, ça c'est pour les bonnes blagues qu'il va faire. Il va proposer de la Ashtumstator, là.
Ashtumstator.
Alors l'aquilée, c'est une plante assez commune.
On la trouve. C'est une grande herbacée qu'on trouve en bord de chemin. Enfin, elle aime pas trop quand même les cultures. Elle se mélange pas. Elle est pas mycicole avec d'autres cultures, mais on la voit en prairie, bord de chemin, bord de route. Elle aime les lieux un peu humides.
Dans les jardins.
Dans les jardins, elle se mélange avec les carottes sauvages. Oui, elle est un petit peu, elle est commune.
Alors d'ailleurs, elle ressemble un peu à la carotte parce que c'est une, elle fait partie de la famille des composés, mais elle.
Des astéracées maintenant.
Mais oui. Des astéracées. Mais en fait, elle a une forme d'ombelle comme la fleur de carotte. Elle fait comme un petit parapluie blanc, mais c'est une autre famille bien différente. Et la famille des astéracées ou des composées, comme tu dis, on l'appelle composée parce que elle est composée de plusieurs fleurs. Ouais. C'est la même famille que le pissenlit ou la pâquerette. Mm-hmm. Et en fait, si on regarde bien l'aquilée, elle ressemble à une ombellifère, mais si on regarde bien, c'est comme des petites pâquerettes qui sont collées les unes aux autres pour former l'ombelle. Et
plusieurs petites fleurs.
Donc c'est une ombelle de petits capitules, de petites pâquerettes. La pâquerette, je vous rappelle, hein, c'est pas une. Quand on voit la fleur de pâquerette, en fait, c'est pas une fleur, c'est un ensemble de fleurs avec des fleurs jaunes au milieu, toutes petites en tube, et des grandes et des fleurs blanches autour avec des longs pétales.
Des ligules.
Des longues ligules, on appelle ça des fleurs ligulées, avec une longue ligule, et au milieu c'est des petites fleurs en tube jaune, et on l'appelle composée parce que la fleur est composée de plein de fleurs en fait, ce qu'on appelle communément la fleur. Donc voilà pour l'aquilée, on la trouve assez facilement, quand on a un petit peu l'œil, on peut regarder de près et on voit ces mini pâquerettes collées les unes aux autres.
Et puis elle est odorante aussi.
Elle est aromatique, c'est une très bonne odorante, oui.
Ce qui est incroyable, c'est que dans certains livres de jardinage, on la catégorie comme des mauvaises herbes en plus.
Oui,
il faut la désherber, comme la carotte et comme ceci, cela, alors que ça a plein de propriétés, plein d'utilisations différentes.
Familiale, assez simple quand même. C'est vrai, quand on connaît quand même ses propriétés principales, bon, voilà. Donc il faut, c'est vrai, trouver la galénique la plus adaptée à la plante pour extraire ses précieux principes actifs. Et la tisane est une bonne façon d'extraire le meilleur des plantes sèches.
C'est une plante qui est facile à faire sécher. On peut l'étendre sur un drap, dans une pièce, ça sèche très facilement.
Tu as employé le mot de galénique.
La galénique, ça vient de Galien, en fait, qui a un petit peu, il a un petit peu préparé, fait des ouvrages de toutes les préparations différentes de plantes. Donc il y a des macérations, des tisanes. Donc les macérations, on peut commencer à froid par exemple pour une plante et la laisser 12 heures macérer. Ça, tout dépend de l'objectif à atteindre. Voilà. Et revenons peut-être aux femmes, parce que l'abbé Knepp, lui, un autre Suisse, celui-là, mais qui était il y a une centaine d'années, qui écrivait déjà que l'aquilée pouvait éviter beaucoup de problèmes aux femmes, et puisqu'elle est régulatrice au niveau du cycle. Je ne vais pas m'étendre, les progestatives en deuxième partie, tout ça, mais bon. On l'utilise aussi en tisane pour les articulations, les ulcères gastriques et les abcès en décoction. Donc on peut l'utiliser en soins internes ou externes. Bref, c'est une panacée. Et en infusion, je vais juste vous dire, cette galénique, c'est 4 à 6 grammes de plantes sèches pour une tasse à thé de 200 millilitres. Donc 2 à 3 tasses par jour, et elle améliore le retour veineux, puisque, comme je l'ai dit, c'est la maîtresse du sang, comme disait aussi Christophe Bernard. C'est une, C'est la maîtresse du sang.
Ok. Qu'est-ce qu'il en... Enfin, au niveau scientifique, pharmacologique, je ne sais pas si on emploie ce mot-là, qu'est-ce qu'il en est de ces, toutes ces plantes? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que... Parce que j'ai un gros bouquin, justement, où il y a référencé beaucoup de plantes, mais c'est quelque chose qui est réactualisé chaque année. Et là, donc, le livre que j'ai, c'est de 2015. Et justement, il réactualise un petit peu toutes les propriétés de toutes ces plantes. Et c'est vrai que j'ai été assez étonné de voir le peu de recherches scientifiques et surtout de résultats. Ils ont fait des expériences, mais très peu. Et quand je dis expérience, c'est au niveau scientifique avec des protocoles très longs, ouais. Voilà, des études très longues, ouais. Etc. Et en fait, la Kimilfeu, je crois qu'elle est reconnue. Enfin, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais il y a comme ça quelques plantes qui sont assez reconnues, mais d'autres qui me semblaient être des panacées ou des plantes assez réputées et qui pourtant sont
oui,
absolument pas.
Il y a aucune recherche qui est faite dessus.
C'est ça,
oui.
c'est ça.
Et je pense que c'est un domaine encore assez récent, en fait, où on se penche vraiment sur les plantes de manière scientifique et on va chercher quelles molécules et faire des protocoles et tout ça.
Et j'ai vu des protocoles longs.
Oui, voilà, c'est très long pour les protocoles, mais aussi, je pense que les études faites aujourd'hui sont peut-être beaucoup plus poussées, mais pendant beaucoup de temps, les laboratoires ont juste copié ces molécules de plantes parce que parfois, elles étaient difficiles à utiliser. Donc, ils préféraient les synthétiser, comme par exemple la digitale, qui est quand même un poison toxique, mortel. C'est vrai qu'il y a, il y a des plantes dont on limite les usages.
Oui, voilà, oui.
Donc, pour les on va dire, pour la famille, tout ça, les petites pratiques, voilà, on peut avoir dans son jardin des achillées, on peut avoir la consoude, on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent aider.
Et surtout des plantes de par l'histoire, c'est des plantes assez reconnues aussi, je veux dire. Ouais. Même si scientifiquement ces recherches, donc les recherches actuelles n'ont pas abouti à vraiment à démontrer scientifiquement avec des protocoles compliqués, ça a montré dans le temps que c'était des plantes qui avaient des vertus et pas des moindres et voilà.
Oui.
Okay. Oui, il y a l'approche scientifique avec les recherches qui sont faites et c'est intéressant, mais après il y a toute l'histoire et toute la tradition, l'utilisation des plantes depuis les millénaires. Et puis les expériences en fait qui ont été faites par chaque herboriste ou médecin ou.
Sans compter que là on parle de la médecine humaine, mais la médecine des plantes, le soin aux plantes, etc. On va utiliser pour certaines plantes les mêmes propriétés.
Exactement, les plantes soignent les plantes.
C'est ça, ça soigne la vie quoi. Ça.
Les animaux de la même.
Aussi de la même manière pratiquement, oui. Oui.
Et oui. Ouais, pour les animaux, c'est les mêmes.
Les à mêmes, peu près, les chiens, usages, en tout cas, pour les chiens en tout cas.
Et c'est les doses qui varient peut-être.
Oui, les doses, oui. Je suppose.
Après, c'est l'intérêt des plantes médicinales et l'utilisation des plantes en infusion, tout ça, c'est qu'il y a quand même une marge dans le dosage. C'est pas aussi dangereux, par exemple, qu'un médicament ou que même des huiles essentielles qu'il faut vraiment doser à la goutte près.
Oui, on est en adéquation avec les plantes et c'est vrai que même si quand même la galénique qui est la tisane, c'est puissant. Notre professeur de phytothérapie, monsieur Pascal Vézy, nous disait que c'était quand même assez puissant la tisane, donc il faut quand même se méfier. Surtout si on la prend à usage prolongé. C'est toujours bon. Très souvent, il faut dire quand même que 3 semaines, c'est à peu près le temps qu'il faut, 21 jours, pour faire une cure. On ne peut pas prendre, par exemple, tous les jours, de la tisane de thym, à moins qu'on ait vraiment un gros problème de foie. Hein. Mais je veux dire, il y a dedans des.
C'est pas anodin, ce sont des plantes médicinales.
Voilà, c'est ça. C'est quand même une composition. Assez subtil et complexe. Et
Maria Treben la conseille, c'est pour elle, c'est une de ses plantes fétiches. Oui. C'est la plante des femmes de tous âges, hein, de la puberté jusqu'à la ménopause, et de toute la vie des femmes, et d'en prendre une fois par semaine, comme ça, même s'il n'y a pas de problème particulier, elle aide les femmes de manière générale.
Moi je pense que pour l'achillée, c'est tout à fait possible, puisqu'elle est circulatoire, donc elle va toujours améliorer le retour veineux, elle va. Oui, une fois par semaine. Oui, je ne savais pas qu'elle le préconisait, mais c'est vrai que...
Elle dit de temps en temps.
Oui, dans tout, en fait, dans les bains, je disais les bains de pieds, les bains, même pourquoi pas les bains de mains, parce qu'en ce moment, je jardine et puis j'ai très très mal aux mains. Et donc, c'est vrai qu'elle désinflamme, elle va relancer, elle dit, comme disait Solène, elle va apporter de la vitalité dans le flux sanguin, en fait.
Très bien.
Alors, tu parlais de jardin. L'aquilée, c'est aussi une des préparations utilisées en biodynamie dans la confection des composts. C'est une plante qui, après macération et préparation assez particulière, on l'incorpore à la fabrication du compost. Elle a notamment une utilité dans la mobilité du soufre et de la potasse dans le sol. Voilà, c'est une des 6 plantes utilisées en biodynamie dans les composts pour améliorer les composts.
Bon, c'était une précision très importante parce que je ne l'avais pas. Et pourtant, James, notre professeur, a dû nous le dire, mais bon.
Alors, tu as suivi l'école des plantes, l'école lyonnaise des plantes, qui a son antenne à Aspé.
Oui, c'est ça. Oui, l'antenne d'Aspé, oui.
Donc, tu peux nous en dire 2 mots, ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que c'est que cette école?
Eh bien, c'est quand même une des 3 grandes écoles médicinales françaises. Je veux dire, il y en a plein de petites quand même aussi, mais bon... Et donc, comme son nom l'indique, elle vient de Lyon, mais l'antenne à Aspé était super pratique pour moi, je trouvais, parce que j'ai passé en fait 3 ans, donc tous les mois, on faisait un week-end de formation, et c'était juste extraordinaire d'avoir des professeurs qui venaient et qui nous expliquaient les choses, parce que bon... ils avaient leurs histoires et des choses à dire sur nos dossiers, sur nos cours qu'on n'a pas quand on prend, quand on fait une école par correspondance, quoi. Donc il y avait quand même, enfin, ça rendait les cours très vivants et donc on avait une pratique aussi. On a fait des greffes, des choses comme ça. On allait se promener sur le Cagir, enfin pas tout à fait tout en haut, mais voilà, on allait se promener pour faire des sorties botaniques et tout, et tout ça c'est assez exceptionnel parce que c'est un très joli site en plus. Aspect.
Et c'est là où tu as rencontré donc James Forrest.
Oui, okay. James Forrest, donc qui était notre professeur de biodynamie.
Que l'on a reçu.
Alors c'est un habitué de l'émission. Enfin, on l'a reçu plusieurs fois autour des plantes, autour des céréales, autour de l'agriculture bio aussi.
Oui, des blés anciens, parce qu'il nous faisait du pain, il nous régalait. Voilà, tous les mois on avait droit à ce pain avec la touzelle. Bien sûr, blé quand même.
Il a fait pas mal de recherches autour des céréales et de la panification, des céréales anciennes et des céréales aussi. Il a voyagé pour travailler autour de la panification dans le monde avec d'autres céréales aussi en Inde, en Afrique.
Oui. Il réapprend en fait aussi en Afrique notamment à des boulangers à utiliser l'igname comme le vin. Enfin, il fait des expériences assez extraordinaires.
Il a travaillé au Sénégal pour réhabiliter les céréales locales. C'est face ça. Au blé qui est envahissant et à la baguette en Afrique noire, on
trouve
de la baguette
tout à fait.
Et qui est très peu nourrissante et qui vient de, c'est des céréales qui viennent d'Europe, quoi. On fait pas de blé. On fait pas de blé en Afrique.
Oui, c'est ça, pour promouvoir quand même, enfin, leurs céréales et leur montrer qu'ils sont encore capables de le faire, quoi. Et ils avaient juste oublié.
Donc voilà pour l'école lyonnaise. Donc c'est 2 jours entiers par mois.
Oui, pendant 3 ans. Donc avec avec des examens de validation tous les septembre, tous les... Donc à la fin de l'année, au mois de septembre, on faisait un examen assez terrible parce qu'on passait tout l'été à réviser. C'est le premier été où je suis enfin libre. Voilà. Donc il y avait ces 3 dates d'examen et de validation et puis un stage d'été qui se faisait ou à Aspé ou ailleurs. Moi, je l'ai fait dans les Alpes. Et il y a aussi l'oral que l'on a passé donc vers le mois de mars, voilà, qui a clôturé, on va dire, les 3 ans de formation.
Et cette formation est accessible à tous ou...
Oui.
Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau.
Non, il n'y a pas de prérequis. Non, je ne pense pas.
D'accord. C'est assez technique, c'est aussi sur l'utilisation des plantes, sur
l'aspect
biochimique et tout ça qui est abordé, de ce que j'en sais.
C'est quand même très dense. Et bon, au niveau chimie, par exemple, pour moi, c'était très difficile. Et puis, je pense que, en fait... si j'avais pu faire un peu plus de pratique aussi, on pouvait faire plus ou moins avec ce qu'on nous disait, mais on n'avait pas la pratique à l'école, ou pas trop. Bon, sur les cours, il y avait quand même toujours ces explications de nos professeurs, et ça, c'était vraiment formidable. Voilà.
Alors toi, Solène, tu as eu une autre approche des plantes médicinales, tu as suivi un autre cursus, alors par correspondance, mais c'est un petit peu particulier parce que par correspondance, de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, donc moi j'ai choisi une école qui s'appelle l'Herbothèque, qui est au Québec, et j'ai suivi le cursus de formation d'herboriste traditionnel sur 3 ans. Et je recevais au début de chaque année une grosse caisse avec 15 kilos de cahiers de cours. Et on nous poussait vraiment dans chaque cahier, sur chaque plante, il y avait beaucoup de recettes. Et on nous invitait à cultiver nos plantes, à expérimenter, à faire le plus de choses possible avec chaque plante et à intégrer dans notre quotidien notre apprentissage. Donc c'était un cours par correspondance, mais que pour moi était très vivant et très pratique et concret.
Oui, voilà.
Donc tu recommandes aussi. Et ce qui est intéressant, ce que j'imagine, c'est que comme on voit un peu quand on aborde un autre pays, les plantes médicinales traditionnelles et l'utilisation qu'on en fait, qu'on peut retrouver dans la bibliographie française. Et il y a d'autres approches. Maria Treben, qui est en Autriche, alors elle a un petit peu des plantes différentes, mais il y a quand même pas mal de plantes qu'on trouve ici.
Sûrement.
Peut-être d'autres qui sont un peu plus montagnardes que comme nous dans le bas du commun, dans les coteaux, mais
dans les vallées.
Il y a un petit peu des utilisations différentes et c'est assez enrichissant, complémentaire. Cette approche, j'imagine qu'avec ton expérience de cette formation québécoise, tu avais aussi d'autres, des utilisations différentes par rapport à l'herboristerie européenne. Tu as cerné ça ou...
Il faudra essayer de voir.
Ou tu n'as pas encore pu assez comparer avec d'autres personnes.
Je pense qu'il y a des différences. Hein. De toute manière, chaque professeur, chaque herboriste a sa manière de faire, son approche, son savoir qui lui est propre. Oui, il y a des différences, mais après, les plantes principales utilisées, au final, ce sont les plantes qu'on retrouve en Europe, partout, en France.
Oui. Voilà.
Parce qu'ils utilisent beaucoup les plantes européennes ou parce qu'on trouve les mêmes au Québec ?
On trouve les mêmes là-bas parce que ce sont les Européens qui sont arrivés là-bas et que même les plantes qu'ils cultivent, ce sont les mêmes. Ils utilisent, au final, assez peu les plantes de chez eux.
Dans nos cours, de toute façon, on a des plantes du monde entier.
Et après, voilà, en tant qu'herboriste aussi, on n'utilise pas que des plantes qui poussent en France. C'est assez large. Mais après, ça dépend. Il y a des herboristes qui aiment beaucoup travailler avec des plantes très exotiques et d'autres qui font le choix de travailler uniquement avec des plantes locales.
Ben oui. Oui.
Parce qu'on parle de l'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille, c'est une plante sauvage qu'on trouve spontanée. Et il y a d'autres plantes sauvages qu'on peut cultiver dans son jardin. Et puis il y a d'autres qu'on ne trouve pas à l'état sauvage, qu'on est obligé de cultiver, comme les basiliques. Tu parlais de basiliques tout à l'heure. C'est des plantes qu'on est obligé de
trouver les graines et de cultiver.
Après, il y a des théories qui tendent à dire que l'homme est dans un environnement qui est capable de le soigner. Donc autour de lui, il va trouver les plantes qui lui vont bien. Donc je suppose que, par exemple, les chamans d'Amérique du Sud, ils avaient des plantes autochtones qu'on n'a pas forcément ici, qui devaient soigner certaines pathologies et qui feraient le parallèle entre une plante de là-bas et une plante d'ici. Peut-être dans les formes, dans les familles de plantes, il doit y avoir des similitudes.
Oui, parfois, mais en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une théorie, en fait, de notre professeur, donc M. Pascal Vessy, qui disait qu'on peut aussi se soigner avec des plantes d'un endroit que l'on aime, ou dans lequel on a vécu, ou là où on est né. C'est ce qui est très intéressant parce que ça peut être aussi efficace. En fait, c'est vraiment nous qui déterminons ces choix. Donc on peut faire le choix du local, mais, mais moi je suis née en Guadeloupe, je suis d'origine guadeloupéenne, et j'ai une petite transmission en fait de ma mère, et ces plantes, je les ai retrouvées dans mes cours, donc c'est assez intéressant aussi de les utiliser, voilà.
Parce que je suppose que les plantes qui sont référencées, c'est peut-être les plus efficaces.
Oui.
Mais sans doute qu'il doit y avoir des
plantes. Après, il y a des plantes qui sont inconnues et qui peuvent être très efficaces, ou alors on trouve très peu d'informations et elles sont quand même très intéressantes. C'est très divers.
En fait, on a encore beaucoup de choses à apprendre.
Exactement.
Là-dessus.
Dans beaucoup de parties du monde, comme en Guyane par exemple, les forêts sont regorgent de plantes médicinales dont on n'a aucune idée. Enfin. De leur efficacité, quoi. Donc, avant qu'elles soient sur le marché, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'études.
Un des intérêts des plantes sauvages, c'est qu'on n'a pas besoin de les acheter, qu'on peut faire.
C'est ça.
Ou qu'on peut les trouver sur un marché local avec des.
Ça permet d'être autonome, en fait, d'aller soi-même chercher la plante, la faire sécher ou la préparer et l'utiliser, quoi.
Dans un environnement sain, en particulier des endroits un peu sauvages, pas trop au bord des routes. Enfin bon, voilà, après il y a des choix. Puis aussi il faut cueillir en conscience, c'est-à-dire ne pas tout arracher, ne pas tout enlever. Parfois je me sens comme une grosse abeille un peu monstrueuse. Et bon, j'essaye de pas trop abîmer.
D'ailleurs, sur l'achillée, c'est une plante assez intéressante parce que quand j'en ai au jardin, elle est venue spontanément, je l'ai favorisée un peu et elle me fait un énorme massif.
Oui, c'est pareil.
Et on la coupe, on peut couper juste les inflorescences et elle refleurit. Et 15 jours après, on a de nouveau des fleurs et on peut récolter plusieurs fois.
Elle aime bien être bichonnée parce que j'ai la même. Elle fait aussi une belle touffe aromatique et elle reste très longtemps.
En fin de saison, elle fait des fleurs un petit peu plus petites. Mmh. On sent qu'elle est un peu fatiguée d'avoir donné des fleurs. Mais c'est une plante qu'on peut avoir son utilité, qu'on peut récolter pour toute l'année en l'ayant dans son jardin.
Mais visiblement, dès qu'on laisse un peu de végétation spontanée, la plupart du temps, l'achillée arrive, non ?
Oui, c'est une plante qu'on trouve souvent dans les jardins, les gazons et tout ça, mais on ne la voit pas fleurir parce qu'on coupe trop souvent.
Donc, c'est ça.
Mais elle est souvent présente dans les pelouses. J'ai vu dernièrement chez un ami, il n'avait pas d'achillée, mais je lui dis, il y en a plein partout.
Mais oui, elle est dans les pionnières quand même, c'est vrai, avec la piloselle et bien d'autres, mais bon, elle est très commune, oui.
Voilà, et puis pour finir aussi, un intérêt de la plante médicinale, on parlait d'un peu de médecine et de molécules synthétisées, c'est que... Notamment par rapport à l'approche de Maria Treben, c'est la plante dans son entièreté qui a une valeur, quoi. Et c'est pas juste une histoire de molécules précises. Il y a quelque chose de la globalité des substances et puis de la subtilité globale de la plante en dehors de ces substances chimiques.
Parce que c'est une simple. On dit globale dans le sens de simple, en fait. Mais Solène a une théorie.
D'ailleurs, oui, on parle des simples. Les plantes médicinales, c'est les simples.
Oui.
C'est un mot du Moyen-Âge, non ?
Oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi ?
Qui veut dire global, en fait. Les simples, c'est... je pense que c'était les moines, au départ, qui les avaient cultivées, qui avaient remarqué qu'elles avaient des propriétés. Et donc, il y a une...
Et je crois qu'elles étaient utilisées de manière séparée. Ils n'utilisaient qu'une seule plante à la fois ?
Peut-être, oui, qu'ils ne mélangeaient pas, oui. Et en fait, c'était pour leur autonomie, pour avoir un petit peu de tout. Et donc, ils faisaient des expériences. Mais oui, peut-être que c'était pour ça qu'on les appelait aussi les simples. Mais moi, j'avais cette notion de global, simple, tout en étant global.
Alors toi, Solène, tu as une approche qui n'est pas simple des plantes, puisque tu fais des compositions de plantes. Alors tu as un échantillonnage de plantes, on en a eu quelques-unes à la maison, tu nous en as offert. Donc tu avais simplicité et persévérance, c'est ça, tu parles de
légèreté. Ma préférée.
Il y a légèreté et simplicité.
Il y a départ pour
présence
l'aventure.
Présence et persévérance, départ pour l'aventure, éloge de la gourmandise, rêverie florale, le goût de la liberté, douceur d'un soir d'été.
Donc je trouve ça assez intéressant parce que ça donne une petite piste d'utilisation de,
ouais,
de la plante.
J'avais envie de guider les gens tout en restant assez ouverte et que la personne puisse l'utiliser pour selon dont elle a besoin en fait.
Et c'est poétique aussi. Ouais. C'est une approche, je trouve.
Et moi, j'aime bien utiliser les mélanges parce que je trouve qu'en fait, il y a une synergie qui se crée entre les propriétés des plantes. Voilà, on va avoir quelque chose qui va être différent d'utiliser seulement une plante toute seule. D'utiliser un mélange,
déjà,
il y a un intérêt.
Déjà pour le plaisir du palais, déjà.
Goût, parce aussi, qu'on peut ajuster. S'il y a une plante qui est un peu amère, par exemple, on a goûté l'aquilée millefeuille tout à l'heure et il y a une amertume dans l'aquilée. Et si on la met dans un mélange, tout de suite, ça va être différent. On ne va plus du tout ressentir la même amertume. Et voilà, il y a l'importance du goût dans le mélange. Et puis après, les effets. On peut mélanger une plante, par exemple, pour la circulation sanguine, comme l'aquilée millefeuille, avec une plante qui va nous redonner de l'énergie et ajuster selon ses besoins.
Alors, tu es à la ferme de Bihunt, à Péguillon ?
Oui.
Où est-ce qu'on peut trouver tes tisanes, tes mélanges? Comment on peut se les procurer?
Eh ben, on peut venir à la ferme, donc au lieu dit Biouin, à Péguillan, donc après le village, en direction de Saint-Ferréol-de-Comminges, et aussi au marché de Boulogne-sur-Gesse le mercredi matin. Donc là, j'ai un peu arrêté de faire le marché, mais j'y étais du mois d'octobre là, jusqu'au mois d'avril. Et là, c'est le boulanger Christophe qui va avoir mes tisanes en vente. Et de temps en temps, je fais le marché de Simor le vendredi soir. Et après, elles sont à la Biocoop de Saint-Gaudens et du Bazert.
Alors, à côté de cette vente et ces préparations de plantes médicinales que tu cultives, c'est des plantes cultivées?
Oui, sous mention Nature et Progrès.
En grande partie, tu utilises des plantes sauvages aussi ou
un petit peu, mais principalement cultivées.
Et donc tu proposes aussi d'autres choses, c'est des rendez-vous réguliers autour des plantes médicinales?
Voilà, des ateliers d'herboristerie, sorties botaniques, une fois par mois, à la ferme de Biouin, donc de 15h à 18h, le samedi après-midi. Et j'ai tout un calendrier avec différentes dates qu'on peut retrouver sur mon site internet, qui est www.tisaneplantesmedicinales.fr. Et tisane plante médicinale, c'est au pluriel.
Alors, j'ai assisté au dernier atelier. On a parlé d'aquilée, d'ailleurs. Oui. C'était une des plantes. Tu avais proposé.
Le thème des plantes de la Saint-Jean. Et donc, comme l'aquilée est une plante de la Saint-Jean.
Voilà, on avait fait une découverte de toutes les plantes fleuries autour de la Saint-Jean. Et on a élaboré un élixir de la Saint-Jean. Avec toutes ces plantes préparées, et puis il y avait une petite partie monographie avec trois plantes médicinales en particulier qu'on a approfondi un peu plus. C'était très très intéressant. Donc c'est tous les 15 jours, il y en avait donc pour la Saint-Jean le 24 juin. Et il y en a
c'est une
rendez-vous.
Fois par mois, sauf en juillet août où je fais deux fois par mois.
Qui est la grande époque des plantes et des fleurs notamment.
Ouais, oui. Et donc le prochain, le 8 juillet, c'est sur les élixirs floraux. Donc là, on va s'intéresser justement uniquement à la fleur et préparer une infusion solaire pour faire des élixirs. Donc c'est-à-dire
une infusion froide en plein soleil, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est pas un romantique.
Une macération solaire. Et les fleurs vont juste flotter à la surface de l'eau.
Voilà. C'est un secret d'alchimiste.
On prend un grand saladier, on pose des fleurs et il y a les petits secrets qu'il faut.
Voilà.
Venir découvrir avec toi, n'en dis pas plus. Et les autres thématiques, du coup, qui vont suivre cette
Le 22 juillet, c'est une sortie botanique. On va se promener dans la ferme, au jardin et sur les chemins pour découvrir les plantes sauvages et médicinales.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. D'autres merci. Choses à ajouter à...
J'avais une petite, peut-être une toute petite recette.
Vas-y.
Voilà,
on t'écoute, Marie.
Parce qu'en ce moment, il y a aussi l'aigre-moine, cette fleur avec la tige rougeâtre et plein de petites fleurs jaunes.
Les petits bourrichons qui
Oui,
petite graine.
Le long de la tige. Et donc en soin de bouche, l'aquilée avec l'aigre-moine est parfaite pour les tanins qui resserrent les tissus parce que c'est en fait très anti-inflammatoire et c'est pour tous les états congestifs. Voilà. J'avais oublié de dire aussi que l'aquilée donc, est très intéressante aussi pour les migraines liées aux hormones et les rhumatismes. Et en soins externes, en soins de peau, elle est adoucissante et nettoyante, puisqu'elle est sudorifique. Voilà, en infusion, en mélange avec d'autres plantes, donc en lotion, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé non plus, mais on peut faire une lotion pour le visage de camomille, sureau, fleur de souci, violette. Voilà, pour une belle peau propre et nette.
On peut se faire des bains d'infusion, quoi.
Oui,
oui, en fait, on prépare à peu près 2 litres d'infusion qu'on met dans son bain.
Oui,
voilà.
La peau étant un émontoire, c'est vrai que de toute manière.
C'est ça, ça passe à travers les pores de la peau et c'est un très bon moyen d'absorber les propriétés des plantes.
Ouais, j'avais vu qu'en Inde, ils faisaient ça pour les enfants. Ils leur font beaucoup de bains.
Et comme l'aquilée, une de ses propriétés, c'est d'aider en cas de fièvre.
Voilà.
C'est très intéressant justement pour les enfants qui n'ont pas à boire une tisane, surtout s'ils sont malades, de préparer l'infusion et de le mettre dans l'eau du bain et de baigner l'enfant.
Voilà.
Bon ben, ce soir on fera bain commun alors avec Benjamin.
Jacuzzi.
On peut faire une petite
infusion d'aquilée.
Allez, t'en achètes un.
Donc ce sera tout pour cette chronique.
Ce sera tout pour celle-là. Oui.
Mais merci Marie.
Une chronique qui était presque un sujet. Hein.
Oui.
C'est assez étendu effectivement.
On a pris pas mal de plaisir à t'écouter donc c'est bien cool.
Merci beaucoup pour cette première chronique autour des plantes. Tu voudras nous en proposer d'autres?
Oui, alors le mois prochain, je pensais peut-être à la sauge qui sera en fleur et qui est peut-être plus moins sauvage, un petit peu plus dans les jardins.
La sauge officinale, la sauge officinale. Herbe de Provence.
Voilà.
Qu'on utilise dans les. Qu'on trouve la classique de cuisine.
Voilà, parce que c'est une très bonne tonique aussi.
Digestive.
Et stimulante et digestive.
Dans les plats de haricots et dans la choucroute, ça aide.
Oh. Et avec
ça
le
aide
porc.
À digérer.
Mais oui, sûrement.
Il y a un peu moins de poésie aussi dans le bol.
C'est pas poétique la choucroute.
C'est pas vraiment poétique.
Ça dépend pendant le repas ou après.
Mais justement, ça aide à la digestion, c'est l'intérêt, un des intérêts de la sauge. C'est indispensable dans ce genre de plat.
Et oui. Oui, alors je vous donnerai peut-être un petit conseil alimentaire alors aussi. Du
ça
coup.
Sauve des couples.
Eh bien, donc on te retrouve le mois prochain. Et tu es venu avec un morceau de musique que tu voulais nous présenter.
Ah oui. Oui, j'aimerais bien que ce soit en fait mon petit jingle. Mais
alors c'est un morceau de classique revisité.
C'est ça. C'est Max Richter qui est un remixeur de musique baroque et donc il a remixé les 4 saisons de Vivaldi. Et parce que c'est beau et parce que les plantes ponctuent nos saisons, voilà, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'écouter un petit morceau.
On va écouter ça.
Merci. Peut-être pas dès le départ, mais...
D'accord.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.